Eh bien, contrairement à la dernière fois, nous avons Louise Lemoine et Ila Beka dans les studios, parce que la dernière fois, on s'était parlé au téléphone. Bonjour.
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 Alors, ça y est, l'Australie, vous y êtes arrivé, on en avait parlé la dernière fois, on va déjà parler à Louise. On avait parlé de Federation Square, on avait parlé de Melbourne. Ça fait 4 jours que vous êtes là. Quelques impressions sur la ville?
Oui, bah déjà. On a la chance d'être pris en charge par le festival et de voir beaucoup de choses en très peu de temps, parce que 4 jours avec 2 jours de voyage juste avant, on pourrait être un petit peu déconnecté. Mais non, on est surpris. D'une part, c'est vrai qu'on arrive dans un monde très anglo-saxon alors qu'on est au fin fond de l'Océanie.
Ça surprend?
Oui, ça surprend. Après, c'est vrai que on est préparé à s'attendre à un univers assez anglais du fait de l'histoire de la colonisation, mais en termes d'organisation urbaine, de paysage urbain, en fait, ça c'est assez surprenant qu'on pourrait presque être à New York, enfin à New York ou dans une autre ville américaine, en termes d'habitude, en termes de typologie de vie urbaine, disons.
D'accord.
Après, on a compris que c'est une ville en même temps très multiculturelle, et ça, c'est assez intéressant de percevoir. Et après, voilà, d'un point de vue de. On est surpris de la présence de la culture. Il y a quand même au moins 4, 5 théâtres. Il y a énormément d'institutions culturelles, et ça, c'est assez surprenant. On avait compris qu'en fait, Melbourne a la particularité par rapport à Sydney d'être peut-être plus la capitale culturelle.
Pas le dire aux gens de Sydney, ça. Vous êtes là pour le festival de Melbourne, donc ça
C'est ça.
va. Oui, non, c'est vrai. Puis il y a la National Gallery of Victoria. Je ne sais pas si vous avez la chance d'aller la visiter, mais c'est un bâtiment qui est assez sympa en plus.
Oui, qui a une belle collection, oui,
Et
absolument.
c'est vrai qu'il y a aussi des théâtres, des très beaux théâtres qui sont peu utilisés, parce qu'il y en a des nouveaux, genre le Capitol Theatre ou même le Forum, en fait, qu'on utilise, mais pas tout le temps. Donc ça, en fait, c'est quelque chose d'assez étrange qu'on ait des espaces très beaux, qui sont utilisés un peu, parce qu'il y a déjà beaucoup de bien d'autres, quoi. Donc c'est
D'accord.
assez étonnant. Ouais.
Alors, Ila, la dernière fois, on ne s'était pas trop parlé,
Non.
même si vous étiez présent dans l'interview. Parlez-nous un peu de Living Architecture et parlez-nous un peu de votre approche, justement, par rapport à Living Architecture. Je rappelle que c'est un ensemble de films qui explique un peu, ou qui regarde à. Ah non, dites-le nous. Ça regarde à comment les gens vivent dans des œuvres
En
d'art.
fait, on dit tout le temps que c'est des films d'architecture. En fait, ce n'est pas vraiment des films d'architecture, mais c'est des films qui partent sur un intérêt sur l'architecture et après ils parlent d'autres choses, notamment sur une chose assez importante pour nous, c'est la façon comment on habite un bâtiment, l'architecture, comment on l'habite. Parce que je dis ça parce que ça peut paraître banal, mais en fait, en architecture, moi je suis architecte. Et on voit toujours dans les films qui parlent d'architecture, on voit toujours les espaces, les murs, et assez souvent les architectures assez vides pour mieux lire l'architecture. Nous, en fait, ce qu'on voulait faire, c'était parler plutôt de la façon où les gens occupent les endroits, enfin l'espace, et donc comment les gens ils vivent dedans, comment ils habitent, et aussi comment ils maintiennent les bâtiments. Évidemment, on s'est attaché à des bâtiments iconiques, donc très connus, et on s'est aperçu en faisant ces films qu'en fait, il y a un énorme travail derrière pour les maintenir, pour les garder, pour leur donner cette vie. Et on s'est dit, tiens, en fait, ce qu'on voit normalement dans les photos d'architecture, c'est juste la façade. Derrière, il y a tout un monde, évidemment, qui ça nous intéresse beaucoup. Moi, quand je faisais mes études d'architecture, je me disais toujours, mais tiens, mais c'est marrant parce qu'en fait, l'architecture est faite pour les gens, mais on ne les voit jamais.
C'est vrai.
On les ôte tout le temps dans les photos, dans l'image. Donc, on travaille beaucoup sur la représentation de l'architecture, ce qui nous intéresse. En essayant de réamener un peu une sorte d'équilibre dans cette image qui est complètement déséquilibrée aujourd'hui dans l'image de l'architecture, est déséquilibrée parce qu'on ne donne pas la place à nous-mêmes. C'est assez étonnant.
Comment vous avez. Il y a une façon particulière d'avoir choisi les sept pièces d'architecture. Vous avez choisi, elles ont toutes un point de similitude.
Oui, il y a un sens. Enfin, bah, déjà, c'est des bâtiments d'architectes très connus, qui sont des Pritzker Prize, qui est un peu le Nobel de l'architecture. Donc c'est des bâtiments assez iconiques, c'est-à-dire c'est des bâtiments qui ont déjà une médiatisation, ils ont déjà eu une médiatisation assez importante. Donc quand vous allez sur Internet, dès que vous mettez, genre, par exemple, le musée Guggenheim de Bilbao, vous avez toutes les photos que vous voulez. On s'est intéressé à ces bâtiments-là Parce que justement, en ayant déjà eu un background médiatique de publication, ça nous permettait d'être beaucoup plus libres. C'est-à-dire que ça nous permettait de ne pas devoir rentrer dans un, ou de ôter complètement le côté pédagogique où on doit expliquer ce que c'est ce bâtiment, tout ça. Donc on était assez libres et on pouvait se concentrer plus sur ce qui n'a pas, jamais été montré, ce qui est toujours la face un peu cachée, c'est... Voilà, c'est comme on le vit, quoi, comme les gens bougent à l'intérieur. Voilà.
D'accord. Vous avez eu des surprises, tous les deux, sur ce que dans le processus de filmer ces bâtiments
c'est... Oui, une énorme surprise, c'est que moi personnellement, j'ai eu une énorme surprise. C'est ce qu'on cherchait un peu, mais on savait pas, on s'attendait pas à un tel point. C'est que on a trouvé des gens extraordinaires tout le temps, dans tous les bâtiments. Il y a toujours des gens qu'on croit qu'ils ne connaissent rien et en fait, ils connaissent très très bien les bâtiments. C'est des gens qui ne sont pas du tout intéressés par l'architecture du point de vue un peu de l'architecture avec les lettres majuscules, la vraie architecture, mais ils s'intéressent aux espaces. Donc, ils sont capables, comme nous tous, on est capable de parler de l'espace, de l'architecture dans laquelle on vit avec nos propres mots. Parce que c'est quelque chose qui nous regarde, parce que c'est quelque chose qui n'est pas une œuvre d'art qu'on peut dire je ne la comprends pas. L'architecture, on la comprend parce qu'on bouge à l'intérieur, on a tout le monde a quelque chose à dire et c'est des choses très intéressantes et on a été surpris par ça, je trouve. C'est incroyable à quel point aussi les gens s'intéressent à son propre bâtiment dans lequel ils vivent. Mmh. On était dans des bâtiments très connus. Et même la personne, je sais pas, la celle où on s'attend pas, il sait quand même dire des choses, il connaît l'histoire, il s'intéresse parce qu'il y a quand même un rapport très fort avec ce bâtiment.
D'accord. Et vous êtes peut-être rendu compte aussi qu'il y a certaines, parce que c'est un voyage à travers le monde, hein, c'est plusieurs endroits sur différents, oui. Différents pays, différentes cultures. Vous avez vu une approche différente justement à la façon dont on s'approprie un bâtiment, un espace, selon les cultures ou pas?
C'est des bâtiments quand même très, il faut dire que c'est des bâtiments très connus, très, très précieux. Donc on ne peut pas s'en approprier beaucoup. On s'en approprie, mais toujours dans un rapport d'estime et de peur aussi. Donc c'est pas...
Mais donc ça c'est vrai, quelle que soit la culture, qu'on soit en Espagne, aux États-Unis ou n'importe où ailleurs en Europe
Je ne sais pas. Moi je suis italien, donc j'ai eu peut-être plus de facilité... Avec l'Italie, on a fait un projet, un film dans l'église de Richard Meyer à Rome. Et peut-être parce que j'étais aidé peut-être par la langue et la culture, j'ai trouvé que les gens étaient beaucoup plus... ils étaient très... Mais c'est quand même le sujet intéressant. Il faut savoir que c'est une église. C'est même l'église la plus importante de l'année 2000, du jubilé. Donc une église toute blanche au milieu d'un quartier populaire, notamment historiquement de gauche. Donc il y a un contraste quand même très fort. Et c'est vrai que dans le film, il en sort. Donc c'était quelque chose... Mais il en sort à travers l'ironie et l'humour. Donc c'est assez fort, voilà, je trouvais que c'était...
Oui, là-dessus, si je peux rebondir, je pense que la grande différence qu'on a pu trouver culturellement d'un pays à l'autre est peut-être dans le degré d'humour et du répondant en fait, qu'on a trouvé. Parce que c'est vrai que la façon dont on travaille, c'est d'essayer d'abaisser les frontières de rapport. On passe du temps, ça c'est vraiment le premier élément de notre travail, c'est de passer du temps, même de casser les pieds aux gens pour pouvoir justement abaisser les limites relationnelles, c'est-à-dire rentrer dans le vif de l'intimité. Et je pense que le degré d'humour est très variable selon les pays et aussi la disponibilité des gens. Et donc, c'est peut-être ça qui fait la différence d'un pays à l'autre.
Mais ça, c'est une autre surprise aussi, parce que c'est vrai que le degré est différent, mais il existe tout le temps, partout. C'est-à-dire qu'on trouve toujours des gens qui ont beaucoup d'humour. Et en fait, on a l'impression que l'humour est toujours sous-jacent, il est là, mais il faut le libérer. Donc, en fait, les gens, évidemment, les personnes qui sont dans ces bâtiments très importants ne parlent jamais. Ils n'ont pas jamais la possibilité de dire ce qu'ils pensent. Et dès qu'on leur donne la possibilité de pouvoir dire quelque chose, et avec le plus possible de liberté, ce qui est quelque chose de complètement très, très complexe dans ce cas-là. Mm-hmm. Mais dès qu'ils peuvent, y a des choses qui sortent. Et ça sort tellement comme une sorte de fleuve que même l'humour, on l'a trouvé partout. Dans tous les projets qu'on a fait, on a toujours trouvé des gens qui nous ont fait rire. D'accord. Donc c'est assez surprenant aussi ça. Donc il y a un grand potentiel qui est un peu caché. Tenue, ouais.
J'ai une dernière question. Comment on s'arrête à 7? Parce que je sais qu'il y a cette notion du prix. Le bâtiment doit avoir gagné le prix.
Plutôt l'architecte, en fait.
L'architecte, alors. Ouais. Mais ça veut dire que pour vous, c'est un projet de vie. C'est-à-dire que tout au long de votre vie, vous allez continuer à suivre un peu des bâtiments qui vous intéressent. Il y aura un 8e, un 9e, un 10e, un 15e.
Là, dans ce cas-là, c'était plutôt une approche un peu architecturale, je dirais. C'est-à-dire qu'on avait besoin de changer d'échelle à chaque bâtiment. C'est-à-dire que chaque bâtiment nous représentait pour nous une échelle différente par rapport au corps humain. C'est-à-dire qu'on a la maison individuelle dans laquelle il y a une personne qui est le premier film qu'on a fait, Colossus Life, qui est à Guadeloupe, qui est la femme, la gardienne, la femme de ménage qui bouge à l'intérieur de cette maison. Mais après, on voulait aussi travailler sur des échelles différentes, genre le musée ou comme l'église ou un réfectoire ou qui est un espace semi-privé, semi-public. Donc c'était un choix fait vraiment dans une optique un peu architecturale.
Oui. D'accord. Et on passait vraiment de l'espace intime à l'échelle du quartier. Mais disons qu'aujourd'hui, ça, la particularité de cette série, c'est qu'on l'a travaillé vraiment comme un projet de recherche ultra indépendant. On l'a entièrement autoproduit, autofinancé, autodistribué, parce qu'on est aussi éditeur. Et donc c'est vraiment un projet, comment dire, assez expérimental. Aujourd'hui, on est amené à travailler sur d'autres projets dans le prolongement de ça, mais plus sur des collaborations, pour des expositions, pour des grands événements culturels.
D'accord. Voilà. Ok, faut aller voir le film en tout cas. Je sais que vous êtes très pressé. Il faut aller voir la série de films. C'est présent au Melbourne Festival. Ça va être un plaisir pour vous quand même de savoir qu'il y a des yeux australiens qui vont...
Oui, on est ravis parce que c'est la première fois qu'on se confronte au public australien en étant sur place. Et on est vraiment très très bien accueillis. Donc on est
ravis. Ouais, vous allez voir, on n'est pas méchants.
Et en fait, c'est aujourd'hui la dernière projection. C'est
Oui, tout à fait. Bon, on va remettre les détails sur le podcast, parce qu'on a remis le podcast en ligne et je remettrai celui-là dans le quart d'heure qui suit. Okay. Ça sera disponible. Merci.
Merci
à vous.